France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Saviez-vous que le bruit est le deuxième facteur environnemental provoquant le plus de dommages après la pollution atmosphérique? Mais tous les bruits ne se valent pas, bien sûr. Le bruit, c'est aussi du son. Et comme c'est la semaine du son, on coupe le son. Et le silence à la radio, je vais vous dire, c'est ce qui nous terrifie le plus. D'ailleurs, on appelle ça un blanc. On parle de silence ce soir au téléphone sonne parce que le droit au silence, c'est aussi un enjeu de société, c'est un enjeu politique. Nos villes, et je sais que c'est contre-intuitif, sont plus silencieuses qu'elles l'ont été, mais peut-être qu'on supporte de moins en moins le bruit, comme cette soudaine sortie de bar ou ces conversations trop fortes de fumeurs devant le pas de la porte ou la télé des voisins ou le bébé qui pleure dans un train, allez savoir. Le silence dans l'espace public, on le cherche comme on cherche les îlots végétalisés d'une ville qui sont aussi des îlots de silence. Le silence, on va le chercher parfois en déménageant, parfois en randonnant seul. Le silence, c'est un luxe. Le silence, est-ce que c'est pour les riches? Parce que c'est sûr que les beaux quartiers ne sont pas collés contre les périphériques. C'est aussi un drôle de truc en fonction des gens. Chez moi, par exemple, la radio est allumée 24/24 parce qu'il n'est pas question que je rentre dans un appartement entièrement silencieux. J'adore lire ou travailler dans les cafés avec le bruit de la ville autour, mais si un tout petit bruit de goutte à goutte rompt le silence de la nuit, je suis capable de démonter toute la robinetterie pour que ça s'arrête. On n'est pas égaux devant le bruit, celui des villes et des campagnes, pas égaux devant ce que l'on supporte, les klaxons ou le bruit des vaches. Est-ce que vous pensez vous aussi que les Américains, par exemple, parlent effroyablement fort, effroyablement plus haut que nous, en tout cas? Nous ne sommes pas égaux non plus devant le silence qui peut être gêné, poli, de mort, souvent nécessaire à la réflexion. Accepter de faire silence, c'est s'extraire du brouhaha du monde et on en a tous bien besoin. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Serge, c'est vous le premier et soyez le bienvenu. Bonsoir.
Merci, bonsoir et bonsoir à tous. Alors moi, je suis très intéressé par votre émission de ce soir parce que figurez-vous que j'habite à la gare du Nord. Je ne sais pas si tout le monde sait que la gare du Nord, c'est la plus grande gare d'Europe. Il passe devant la gare du Nord tous les jours, 24 heures sur 24, des dizaines de milliers de taxis, de VTC, des centaines d'autobus de la RATP, de touristes, des camions de pompiers parce que l'hôpital Lariboisière est juste derrière la gare du Nord, de la police bien entendu, des collectes d'ordures, de verre, etc., des terrasses bondées, archi-bondées à l'extérieur avec des gens qui évidemment parlent fort parce qu'il y a aussi pas mal d'Américains parmi eux. Voilà notre sort. Alors quand on s'en remet à la politique locale, c'est-à-dire quand on appelle la mairie de Paris par exemple ou la mairie du 10e arrondissement, figurez-vous que sur le site de ces institutions, il ne figure pas un seul mot concernant la pollution sonore. Alors évidemment, nous, on a un double peine, puisque là, c'est de la pollution atmosphérique, je vous laisse imaginer ce que ça peut être ici. Mais la pollution sonore, c'est absolument monstrueux et ça n'est absolument pas pris en compte. Alors les gens klaxonnent ici en bas, les taxis, toute la journée. C'est un enfer permanent. On a beau se plaindre, on a beau en parler, on a l'impression que les institutions et les maires, etc., sont sourds au bruit.
Bah, écoutez, on va garder cette formule, en tout cas, sourd au bruit, Serge. Merci beaucoup pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Et autour de cette table, il y a Christian Hugonnet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur acousticien et c'est vous le fondateur de la Semaine du Son. Il y a Boris Gourevitch, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche CNRS à l'Institut de l'Audition, de l'Institut Pasteur. Vous êtes spécialiste de l'impact du bruit sur le cerveau et sur l'oreille. Et Cécile Regnault est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte, chercheuse à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon et spécialiste des environnements sonores. Ben, j'ai envie de commencer avec vous, Cécile Regnault, avec cette question de notre ami, parce que près d'une gare, on peut imaginer que oui, il y a du mouvement, donc il y a du bruit, il y a des taxis, il y a des bus. Est-ce qu'on peut changer l'environnement sonore d'un endroit aussi passant qu'une gare? C'est possible si on s'en donne la peine ou pas?
Alors, effectivement, on va avoir plusieurs niveaux sonores dans une gare. Alors, il peut être très important, mais on sait qu'aujourd'hui, on fabrique aussi des gares où ce volume peut être réduit par une réverbération qui va être atténuée par des matériaux. Ah. On peut jouer sur les matériaux du bâti, en fait, pour absorber un certain nombre de sources sonores qui peuvent être dérangeantes, en effet.
Mais je vous entends dire que c'est est trop tard, en fait, pour notre ami qui habite Gare du Nord.
En fait, vous l'avez dit, la ville, c'est la ville. Le son, c'est la vie aussi. Enfin, une ville une complètement silencieuse qui n'aurait pas ses sons, on pourrait plus vivre. C'est presque c'est contradictoire avec le fait de vivre en société.
Qu'est-ce que ça dit, Christian Huguenot, d'ailleurs, dans la ville? On sait bien qu'il y a un nombre de décibels autorisé maximum, enfin, ça, c'est la loi. Mais qu'est-ce que ça dit, ces îlots de très grand bruit, en fait? Est-ce qu'on peut dire que désormais la ville fonctionne comme ça? Désormais, il y a des îlots de très grand bruit.
Oui, il y a des îlots de très grand bruit. Il y a aussi une inconscience, ou un manque de prise de conscience de ce que le bruit, effectivement, peut engendrer comme comportement, justement. On parle beaucoup de violence dans les gares, vous l'aurez remarqué, hein. C'est quelque chose d'assez étonnant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la gare du Nord, hein. Il y a toutes les gares, toutes les gares parisiennes sont toutes, effectivement, sont toutes poncées, en fait, d'un point de vue visuel. Autrement dit, ce sont toujours des matériaux extrêmement lisses, hein, auxquels on assiste. Et on ne se pose pas la question de savoir, et comme le disait très bien Cécile Regnault, et si on se posait la question d'un minimum d'absorption, de manière à faire tomber justement cette ambiance sonore qui est liée au passage important de milliers de personnes, je pense à la gare Saint-Lazare par exemple, c'est hallucinant. On doit se poser enfin ces questions définitives. Alors quand on voit à Waterloo Station par exemple, on va en Angleterre, on trouve justement ce côté un peu cotonneux, et c'est vachement sympa. Quand on arrive à Waterloo, on a beaucoup moins de bruit, figurez-vous, parce qu'on a pris conscience de cette absorption nécessaire.
Mais même à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire, on peut modifier l'extérieur, l'arrivée, parce que ce qui rend notre auditeur fou, je peux le comprendre, c'est qu'effectivement, les taxis convergent vers la gare, les bus convergent vers la gare, etc., etc. Est-ce qu'on peut modifier, aujourd'hui, un extérieur,
oui, je
pour qu'il soit moins bruyant?
C'est ce que nous disons aux urbanistes, hein. On essaye de les faire de penser par le sonore, hein. Penser aussi une ville par le son, c'est pas mal comme idée quand même. Donc ça veut dire qu'il faut penser son, et ensuite on a le résultat. Hein, le son est un créateur d'image, hein. C'est comme ça, comme au cinéma, hein. Et comme la radio d'ailleurs, c'est pareil. Autrement dit, on doit entendre, on doit penser un lieu, et ensuite on a le résultat tout de suite de la manière avec laquelle on va organiser les déplacements de voitures, les lieux les plus bruyants qui doivent être dissociés des lieux les plus calmes. Il faut penser à cela. D'ailleurs, on parle de calme plutôt que de silence, d'ailleurs, de manière générale. Le vide peut être tout à fait calme à 40-50
Le max
décibels.
Autorisé, théoriquement, 90, est-ce que je me trompe?
Là, on est arrivé, 80-90, on peut aller jusqu'à 100, 110 dB sur les sirènes de pompiers, par exemple.
Alors, sirènes de pompiers, c'est quand même plus rare. Mais
Oui, enfin, la police, c'est pareil. Hein, donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, toutes les mesures que je réalise, effectivement, sur Paris sont toutes à peu près autour de 70-80 décibels permanents.
Boris Gouret,
et c'est ce problème permanent qui pose problème, justement. C'est cette permanence de linceul sonore qui pose problème.
Ben justement, j'allais vous poser la question, Boris Gourevitch, vous qui êtes spécialiste de l'impact. Est-ce que le permanent est plus difficile pour nous, pour notre santé, pour notre impact sur le cerveau, sur les oreilles, que des bruits plus violents et plus rapides qui nous arrivent dessus? Parce que en préparant cette émission, je me suis rendu compte que la ville, d'une manière générale, était beaucoup moins bruyante, en fait, qu'elle ne l'a été. Mais il y a des endroits qui sont de vraies sources de bruit et qui sont aujourd'hui autre chose. Donc il vaut mieux être exposé sur une vraie longueur ou de temps en temps seulement, mais très fort.
C'est pas une réponse simple, c'est une première question difficile, tout simplement parce que les bruits impactants soudains, brutaux, font réagir tout notre système cardiaque, peuvent provoquer une hausse de tension, mais le cerveau va être lui aussi surpris, c'est-à-dire qu'il va avoir une réponse très forte. Cela étant, ça va pas influencer réellement la santé. Par contre, des expositions qui vont être beaucoup plus longues vont avoir des effets physiologiques toujours certains, sur par exemple le sommeil, mais aussi cette fois-ci, ils peuvent avoir des effets sur l'oreille, dans un premier temps, ça peut l'endommager si le son est trop fort, et le son modéré peut lui avoir un effet sur le cerveau, mais ça, on ne le sait pas encore bien en science. C'est ce qu'on étudie actuellement, c'est savoir comment les sons longs, prolongés, les expositions sonores prolongées, peuvent modifier la façon dont le cerveau répond au son, ou même répond aux émotions.
Est-ce que vous avez le sentiment les uns les autres, Christian Huguenot par exemple, qu'on est plus, on a moins de patience vis-à-vis du bruit aujourd'hui qu'on en avait, ou peut-être de certains bruits. Est-ce que, et moi je trouve ça fascinant ça, est-ce que nos gènes ont changé? Bah, je vous donne un exemple bête et méchant. Est-ce qu'autrefois, un bébé dans un train, ça nous faisait rire et aujourd'hui, ça nous agace? Enfin, vous voyez ce genre de choses? Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel dans le bruit?
Moi, je pense que le bruit, son omniprésence, en fait, nous pose problème parce que je crois qu'à un moment donné, mais ça, c'est quelque chose que je ressens et que je partage avec pas mal de personnes autour de moi, c'est que précisément, on est ce bruit permanent nous déconcentre surtout. Autrement dit, on perd quelque part son centre de gravité. C'est ce que j'exprime, je tente d'exprimer, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien où on est. On est dans un supermarché avec un bruit permanent. J'aime bien le rappeler, on veut acheter une brosse à dents et on sort avec une savonnette. Quoi. Pour quelle raison? On a été décentré, on n'est plus vraiment soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont un peu marre de cela. C'est-à-dire qu'ils veulent exister aussi quelque part, par la voix, ils sentent périsseurs qu'on leur vole, en tout cas, une partie de leur vie de cette manière-là.
Boris Gourevitch, je ne vous ai pas oublié, Cécile Regnault, je vous promets. Boris Gourevitch, on retourne au standard après, et ensuite Cécile Regnault.
Juste pour rajouter une petite note historique, on a souvent l'impression qu'on s'intéresse au bruit qu'au XXe siècle, mais il y avait déjà des recommandations de Jules César pour empêcher les chars d'entrer dans des cités aux heures ouvrables. Donc, c'est pas un problème si récent que ça, la première chose. Et puis...
C'est pas grave. Tiens, pendant que vous dites ça, le bruit des chevaux, par exemple, dans Paris,
voilà.
Est-ce que...
J'ai retrouvé ce que je voulais dire.
Écoutez, voilà. Est-ce que le bruit des chevaux, c'est au fond aussi polluant, une vraie pollution sonore aussi, à peu près au même titre que les voitures aujourd'hui, par
Alors,
exemple,
il faut savoir justement que, par exemple, à la fin du 19e siècle, la revue Scientific American dit « C'est formidable l'arrivée du tramway et des voitures sans chevaux, donc les voitures
du
thermiques
coup, il y aura
qu'on
moins de
connaît,
bruit.
Parce qu'enfin, on va être débarrassé de ces bruits de chevaux qui nous empêchaient de converser dans la rue. Donc, on mesure à quel point les problèmes se sont peut-être déplacés, mais existaient déjà.
Et c'est là que je vous attends, Cécile Regnault, parce que vous qui êtes architecte et qui donc construisez vraiment des environnements et aussi des environnements sonores, notre tolérance à certains bruits bouge et notre tolérance surtout à certains types de bruits. Enfin, il y a des choses qu'on ne supporte plus aujourd'hui, qu'on supportait avant. Est-ce que ça fait partie des choses qu'on prend en ligne de compte quand on est l'architecte que vous êtes?
Oui, je pense, parce qu'effectivement, si on prend l'exemple des habitats, effectivement, avant, je pense qu'on avait une connexion assez forte avec ses voisins. Enfin, certainement, aujourd'hui, on a des logements qui sont relativement isolés. On est isolés les uns des autres. Donc, en fait, effectivement, cette dimension de... Dans nos environnements, en fait, on va essayer toujours d'essayer de se repérer vis-à-vis de ce qu'on voilà de son environnement, de la connaissance ou pas de son voisin, et c'est ça qui va faire qu'on va être en tout cas en architecture, c'est quelque chose qui a beaucoup bougé en fait. On isole beaucoup plus les logements les uns des autres en fait.
Voici Patrice qui nous attend au standard. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je pense que la problématique des nuisances sonores relève de circonstances, le quotidien et l'événementiel. Concernant l'événementiel, je me demande comment on peut concilier des événements particulièrement bruyants et récurrents. Je prends l'exemple des 24 heures du Mans, voitures, motos, camions, avec la tranquillité des riverains. Ce sont des événements pourtant qui apportent un dynamisme économique évident. Donc c'est pas évident cette conciliation. Et pour rebondir sur ce que vient de dire votre premier auditeur, il y a le quotidien. Il y a quand même la loi qui prévoit de nombreuses situations où les nuisances sonores ne sont pas acceptables. Les moteurs trop bruyants, les pots d'échappement. J'ai vu un reportage sur le front de France 5 lundi soir. Et vous avez par exemple un village qui est traversé par 10 milliers de poids lourds avec toutes les nuisances sonores et pestilentielles. Et c'est strictement interdit. Pourtant, personne n'intervient, les forces de l'ordre n'interviennent pas. Et je ne comprends pas.
Merci beaucoup pour votre remarque, Patrice. Christian Huguenet, pardon. Ce qu'il nous dit, Patrice, c'est que il y a différentes situations, différentes choses, que tout bruit n'est pas forcément mauvais, ou que parfois il faut, il pense aux 24 heures du Mans ou autre chose, par exemple, faut faire avec. Et puis, de toute façon, le lendemain, ce sera fini.
Écoutez, le bruit, c'est toujours ce que... C'est le son dont on ne veut pas.
J'allais dire, c'est le bruit des autres, en fait.
C'est le son qu'on rejette. Hein. Ouais. Autrement dit, voilà, un son qu'on rejette, c'est un bruit. Si un son, on l'adore, si on l'accepte, ce n'est plus un bruit. Ouais. C'est un vrai son utile. Ouais. Donc, la notion de bruit est une notion tout à fait relative. Ouais. C'est ce qui est dit. Les camions qui traversent, évidemment, une petite commune, évidemment, ils ne sont pas admis. Parce que, donc, c'est quelque chose... Donc, ce sont des sons qui sont rejetés. Si ce sont des camions qui appartiennent à la région... qui font vivre la région, ils seront parfaitement acceptés, ces camions-là. Il faut bien comprendre cette notion importante. Alors, on est, et le bruit, effectivement, le bruit des autres, oui, c'est celui qui nous permet d'aimer ou ne pas aimer la personne. La personne qui fait du bruit, c'est celle qu'on a envie de rejeter, ça c'est clair.
Est-ce que on parlait du bruit des autres à l'instant, Boris Gourevitch, là aussi, est-ce qu'il s'est passé des choses fondamentales à votre avis, depuis le confinement par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qu'on regarde complètement différemment aujourd'hui, qu'on entend complètement différemment aujourd'hui, qu'on n'imaginait pas par rapport à notre relation au bruit, parce qu'on a été subitement confronté à la ville silencieuse et que ça nous a fait tout drôle quand même?
Alors, il y a déjà eu un changement de norme pendant le confinement, ça paraît évident, tout le monde a pu l'observer. Simplement, dans notre résidence, nous sommes en face d'une école, donc l'école est devenue tout à coup silencieuse. Et pourtant, nous avons pris énormément de remarques de nos voisins quand nos deux enfants sortaient dans la cour.
C'est vrai, c'est drôle.
Pour jouer au ballon 20 minutes, parce que les voisins nous disaient « Mais vous vous rendez pas compte, on ne peut plus vivre la fenêtre ouverte. » Et je leur disais « Mais comment faisiez-vous avant? Il y a une école de 300 personnes, 300 enfants en face, ils n'en avaient pas conscience. »
Je trouve ça formidable, je trouve que cette remarque est formidable en fait, sur notre relation au bruit et à un moment particulier en fait, dans le cours de nos vies.
Et la deuxième remarque, c'est que on a pu remarquer après le Covid que le télétravail s'est développé. Le télétravail, c'est du travail à la maison, donc a priori moins bruyant.
Non, sauf que dès qu'il y a quelque chose dans la rue, ça empêche de travailler, donc c'est foutu.
Et peut-être qu'il faut quelques études là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a ce côté des managers qui disent « Ah, peut-être qu'on a perdu en productivité », mais moi j'ai aussi tendance à penser qu'au calme et sans sollicitation ou hors d'un open space, on peut avoir aussi une qualité de concentration meilleure. Donc je ne suis pas certain de la positivité ou la négativité de la somme des deux.
Cécile Regnault, est-ce qu'on construit différemment depuis le Covid à votre avis? Est-ce qu'on pense différemment par rapport au bruit depuis le Covid parce que nous avons expérimenté quelque chose de très inédit?
Oui, je pense qu'il y a une forme d'attention à nos environnements sonores en fait qui sont remontés, notamment par rapport. Alors, on a beaucoup parlé de la présence des oiseaux qu'on entendait forcément peut-être plus de la même manière quand on avait effectivement des rues bruyantes et alors que les oiseaux sont quand même encore très présents dans les villes, enfin en tout cas à certains endroits. Et ça, c'est une vraie les architectes, les urbanistes et les politiques vont vers l'idée de recréer des oasis de calme, de travailler dans la ville justement. Il y a des plans de prévention du bruit et dans des zones calmes qui sont associées parce que ce qu'on disait tout à l'heure en fait, l'impression de silence, ça va toujours être relatif. Si on passe d'une rue bruyante à 80 décibels à une rue à 60 décibels, on trouvera que la rue à 60 décibels est plus silencieuse, a plus de calme et plus apaisée. Et si on s'enfonce encore dans l'îlot urbain, une arrière-cour, vous allez tomber à 60 décibels et là, pour le coup, vous allez vous trouver vraiment dans un sentiment d'apaisement total. Et c'est ça qu'on essaie de préserver aujourd'hui dans les villes, c'est ces poches de calme, ce qu'on appelle des refuges aussi on a les refuges de fraîcheur, mais aussi qui peuvent s'apparenter à des refuges aussi
En général, c'est les mêmes, non ? Est-ce que c'est pas en général les mêmes, en fait ? Parce qu'une poche de verdure est aussi une poche de calme ?
Un peu, parce qu'en fait, la poche de verdure, en fait, c'est aussi plus d'absorption. On parlait d'absorption des ondes sonores tout à l'heure, et effectivement, quand on désimperméabilise, on va enlever ces revêtements qui créent justement des réflexions qui vont renforcer et faire résonner les cours. Et si on enlève déjà, on va gagner un tout petit peu. Alors c'est pas, on peut jouer aussi sur les façades. Il y a une deuxième. Donc il y a aussi ça, cette idée. Enfin, aujourd'hui, on construit beaucoup plus de logements avec des grands balcons. Mmh. En fait, ce qu'on ne faisait pas effectivement par le passé. Et du coup, c'est aussi un signe qui fait que on se reconnecte aussi avec son environnement sonore. Avec,
c'est ça. Et si y a grand balcon, ça veut dire qu'on va sortir. Donc ça veut dire qu'on peut vivre dehors, ou en tout cas boire un coup dehors, voire déjeuner dehors si le balcon est assez grand. Et ça dit quelque chose, effectivement. On est en train de parler de bruit, mais surtout de silence et aussi de silence. L'un ne va pas sans l'autre. Dans le téléphone sonne ce soir avec Christian Egonet, qui est ingénieur acousticien et fondateur de la Semaine du Son, avec Boris Gourevitch, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut de l'Audition de l'Institut Pasteur, et avec Cécile Regnault, qui est architecte et chercheuse à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Et nous sommes aussi avec Bernard, qui est à Lyon. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, si ce n'est que vous ne définissez et prenez en compte le silence que par opposition au bruit. Or, tout est binaire, c'est-à-dire que c'est le principe de l'action et de la réaction. Mais mon sentiment, c'est que le silence a un certain bruit. Et j'en veux pour preuve, quand je me lève de bonne heure le matin, que je mets mon nez dehors, bon, j'habite à la campagne, eh bien, je n'entends pas le silence de la même façon que le silence que j'entends à midi ou le soir.
Mmh. Ah ouais, c'est joli ce que vous nous dites, j'aime bien cette phrase, Christian Egonet, le silence a un bruit.
Le silence est habité, c'est très important de le dire, il n'y a pas deux silences qui se ressemblent. D'ailleurs, nous, en prise de son musicale, on fait toujours des prises de son de silence avant de faire une prise de son musicale.
Nous aussi,
il n'y aura jamais, en fait, deux sons qui sont, deux silences qui sont identiques selon le lieu, selon la température, selon le moment de la journée. Donc, tous les silences sont, encore une fois, habités, évidemment. Et il faut parler de silence utile aussi, parce qu'on a besoin également d'avoir un silence habité. Et les silences ne sont jamais d'ailleurs à 0 dB, comme certains peuvent le dire. Non, nous sommes vraiment à 40 dB, autrement dit. C'est pour ça qu'il faut parler de calme. Et ce n'est pas le silence mortel, c'est la mort, oui, c'est le vrai silence. Là, du coup, c'est le coup de feu qu'on s'en voit dans la tête. Et on aura le vrai silence définitivement. Mais sinon, non, le bon silence, c'est celui qu'on a désiré avec notre conception du monde et notre amour également d'être en relation avec les autres. Car en fait, l'autre n'existe que par le son. Il ne faut pas l'oublier tout de même. Donc, quand on est avec l'autre, on est avec lui par le sonore. Et l'autre fait du bruit, forcément. Il existe. Il existe en tant que tel. Dans mes expertises judiciaires, il m'arrive d'entendre des gens qui se retournent contre leurs voisins parce qu'ils marchent. Vous vous rendez compte? Ils ne volent pas. Ils marchent. Et pourquoi ils marchent? Parce qu'on ne les connaît pas. Et voilà. Et on ne veut pas les connaître. Et voilà. C'est comme cela, en fait, que le bruit devient effectivement une nuisance. Mais en fait, ce sont des bruits naturels qui nous permettent d'être en relation avec l'autre.
Est-ce que le silence est un luxe, Boris Gourevitch, aujourd'hui, à votre avis? Ou est-ce que le risque, c'est qu'il le devienne? C'est-à-dire qu'il y ait d'un côté les pauvres dans le bruit, les riches dans le silence?
Oui, alors il faut probablement distinguer, comme notre auditeur l'a fait, déjà la campagne et la ville. C'est peut-être plus un luxe dans la ville. Ça devient une recherche. On cherche à isoler de mieux en mieux pour des questions économiques, mais aussi pour des questions de bien-être, tout simplement, et aussi parce qu'on sait qu'on va travailler de plus en plus chez soi. Après, le silence, c'était très bien ce qu'a dit Christian, il a toujours une forme de coloration. On peut même identifier, effectivement, peut-être le moment de la journée, etc. Mais le cerveau n'aime pas pour autant le silence total. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une chambre totalement isolée ou même dans un studio sans qu'il ne s'y passe rien pendant une heure, un studio de radio, vous n'allez pas être à l'aise.
Non, non.
Le cerveau, comme le corps, a quand même besoin d'une forme de présence, de conscience de la présence.
Dans les pièces de bruitage qu'on connaît, nous, à la radio, il y a, ben, vous connaissez ça par cœur aussi, Christian Gonnet, il y a une espèce de... Il y a quelque chose d'enveloppant qui est un vrai silence, en fait, et ça va pas. Il y a un truc qui va pas, en fait.
Enfin, je sais pas comment vous savez que dans un bruit de pas, si faible soit-il, vous avez 24 signifiants sur la personne, quand même. Vous entendez une personne marcher, vous avez 50 éléments pour savoir si son poids, son sexe, où il vient, où il va, son état d'humeur, la nature des chaussures, la nature du sol. Enfin, c'est incroyable, c'est hallucinant. Et on n'entend plus ça, c'est ça le problème aussi dans une rue. Alors, je ne parle pas des Champs-Élysées, mais n'importe quelle rue aujourd'hui, comme on est à peu près à 40, 50, 60 décibels, et c'est là où on a peut-être un problème avec un bruit qui, lui, n'est pas identifié. Vous voyez le problème ? C'est ça le problème du bruit urbain aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus de couleur, justement. Ou il a une espèce de gris, vous voyez, c'est comme si on était tous habillés avec un espèce de manteau gris, vous voyez, et qu'on retrouve finalement le calme en se déshabillant tranquillement, on se déshabille, et on se met à avoir des couleurs, on se met à avoir des chemises rouges, bleues, vertes, etc. Et là, ça redémarre, vous voyez. Et c'est ça, le plaisir du sonore.
Je voudrais vous reposer la question, Madame l'architecte Cécile Regnault, sur le bruit pour les pauvres et pas de bruit pour les riches. Est-ce que le risque, c'est celui-là ? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, on est évidemment parfaitement capable de créer des endroits qui sont des endroits de silence, et pas seulement pour ceux qui ont des moyens ?
En effet, parce que parfois, en fait, vous avez des bâtiments qui existent depuis longtemps, qui ont été placés dans des environnements plutôt favorables, et puis un jour, effectivement, arrive une route. Enfin, et c'est pas forcément lié à la relégation.
Alors
en fait.
Ça, c'est sûr. Mais regardez les aéroports quand ils grandissent. Enfin, les premiers arrivés autour des aéroports en avaient 2 avions par jour. Aujourd'hui, ils en ont 2 par minute.
Mais effectivement, enfin, l'attention aujourd'hui, j'ai visité cet après-midi à Lyon une opération extrêmement exemplaire de rénovation de logements sociaux, où là, effectivement, tout a été réisolé par l'extérieur, avec justement l'attention à des environnements aussi un parc paysager, où on va ramener aussi effectivement des sources sonores, parce qu'en fait, le problème, c'est d'arriver à créer un nouveau paysage sonore, en fait, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, parce que la ville se construit sans cesse, et on rajoute des sonorités qui vont devoir avoir une... Enfin, c'est l'émergence de certains sons qui vont faire qu'on va apprécier un silence après, derrière. Enfin, donc, on est dans un contraste, dans un rapport figure-fond, qui fait que ce paysage se construit autour de nous, et c'est comme ça qu'on se sent, qu'on se repère dans la ville aussi, enfin, quelque part. Donc il y a aussi cette idée que faut parfois amener des sons qui ne sont pas là. C'est que l'absence de sonorité peut être aussi négatif, en fait, dans notre absolument. Manière de nous repérer dans la ville.
Et un nouveau bruit dans la ville, moi j'ai toujours trouvé ça formidable. Alors après, évidemment, ça rentre dedans, mais quand un nouveau tramway arrive, par exemple, subitement c'est un autre bruit, ça ressemble pas au métro, le tramway, ça ressemble certainement pas au bus non plus. Il y a les dings des vélos qu'on entend plus aujourd'hui, une espèce de vzzz comme ça qu'on n'entendait pas autrefois dans les villes et qu'on entend désormais. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ben, je vais me porter un peu en faux par rapport à ce que vous disiez à l'instant. J'ai habité 30 ans à la campagne et je suis venu chercher le calme en ville.
Ok, intéressant. J'adore.
Bon, j'habite une ville sans tramway, faut dire. J'habite une rue un peu passante, avec une cour derrière qui donne sur d'autres cours et puis une maison de retraite au loin. Donc ça, c'est ce côté-là...
Mais du coup, c'est quoi ? Le silence vous a fait peur, Olivier ?
Non, le silence ne me fait pas peur, il ne m'a jamais fait peur. Non, ce qui me faisait peur, c'était que j'ai habité 30 ans à la campagne. Alors, au départ, j'avais des voisins tout à fait normaux. Et puis, ils sont arrivés, au fur et petit à petit, des gens qui sont venus habiter à la campagne, parce que, à la campagne, n'est-ce pas, on n'a pas de voisins, paraît-il, alors on peut se permettre beaucoup de choses. Sauf que les voisins subissent les bruits de voisinage.
Et donc, et vous êtes parti à cause de votre voisin, donc je voudrais comprendre votre histoire juste rapidement,
voisins,
Olivier.
Oui.
Ok, d'accord. D'accord, et vous êtes allé...
Quand vous avez un voisin qui fait la fête et puis qui pratique le stock-car et qui fait des répétitions de stock-car dans son jardin...
Oui, ça y est, je comprends. Voilà, ça y est, je comprends votre... J'ai compris maintenant, donc on est mieux en ville dans ces cas-là, effectivement, je peux comprendre ça, Olivier, merci beaucoup. Je vous ai vu réagir.
Oui, ça revient exactement à ce que tout à l'heure nous disions, c'est-à-dire c'est le côté gris, l'habit gris, mais qui a un côté positif, finalement. C'est-à-dire, marcher et ne pas s'entendre marcher, ne pas être remarqué quand on marche, c'est aussi aussi un plus finalement. C'est-à-dire que ça permet de ne pas être remarqué. Mais à la campagne, c'est vrai que la personne qui va arriver à telle heure, etc., on va l'entendre. Tiens, le Paul est arrivé un peu tard hier soir. Tiens, t'as remarqué, oh, puis la Jeannette, elle est un peu, ouais, un peu en avance ce matin. Donc ça veut dire qu'on a perdu en fait son anonymat. Et ça, ça pose un problème aussi. Et ce, monsieur, peut-être aussi, et, s'il entend un voisin qui est peut-être pas très délicat, ça peut lui donner envie de quitter ce lieu pour retrouver peut-être une sorte d'anonymat un peu présenté tout de même par la ville qui donne cette possibilité d'un peu moins vu, si tu vois, un peu moins entendu en tout cas.
Mais voilà. C'est vrai qu'au fil des coups de fil, de ce que nous lisons, c'est que on a tous notre silence perso et notre bruit perso, en fait, Boris Gourevitch. Et après, la difficulté, c'est de pouvoir vivre chacun avec le bruit des autres et avec le silence des autres, en fait.
Et le moment des autres.
Et le moment des autres, exactement. Des autres.
On se rend compte en ville que... Alors, on pourra toujours se demander un jour pourquoi on fait la fête à 2h du matin, pourquoi c'est le meilleur moment, mais toujours est-il que c'est difficile à vivre pour les voisins. Ça serait mieux à 14h,
c'est sûr, finalement, ça serait beaucoup plus simple. C'est pas pareil.
Je connais des gens qui sont partis aussi en ville à cause du bruit de leurs voisins. Et si on mesure le bruit que faisaient ces voisins, il était probablement pas beaucoup plus fort que les voitures qui passaient.
Ah ouais.
Sauf que les voitures, on ne les entend plus si elles sont continues, alors que le voisin va amener des sons brutaux, des sons soudains, qui eux vont être très gênants, d'autant plus qu'ils ne sont pas voulus.
Et comme il y a eu des histoires qui nous font tous rire, mais enfin, de gens qui sont à la campagne et qui protestent parce que les vaches font du bruit, ou parce que les cloches sonnent, etc.
Mais
etc.
c'est une vieille histoire, il y a eu des procès pour des coqs qui se levaient le matin, il y a plus de 100 ans, et d'ailleurs la personne avait été déboutée.
Voici Sylvia qui nous appelle de Valence, bonsoir.
Bonsoir. Moi, je voulais simplement témoigner sur ma perception du silence. J'ai longtemps vécu à Paris, dans le 13e arrondissement, avec les bruits du jour, de la nuit, auxquels j'étais parfaitement habituée. Et puis, j'ai déménagé dans Lyon. Et là, j'habitais une petite une maison, un petit peu au milieu des champs, mais bon, il y avait des voisins à côté, malgré tout. Et en fait... dès les premières nuits, je me suis aperçue que le silence, finalement, m'angoissait. Pendant de nombreuses semaines, eh bien, dès que la nuit tombait, je mettais de la musique relativement fort pour ne pas entendre le silence de la nuit, pour ne pas entendre le silence, en fait.
Team Sylvia, moi, la radio est allumée tout le temps et je veux pas rentrer quand il fait silence, enfin, vraiment, quoi.
Ouais, c'était une angoisse d'être dans ce monde silencieux. Et j'avais même prévenu mon voisin qui était charmant. Je lui ai dit, écoute, si tu entends de la musique, ne sois pas étonné parce que moi, j'arrive pas à vivre finalement sans un bruit. Ce silence m'angoissait. Voilà.
Merci beaucoup, Sylvia. Moi, je trouve ça incroyable, Christian Higonnet, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes silences. Enfin, on disait tout à l'heure, il y a les silences de mort, les silences polis, les silences gênés, les silences quand on s'emmerde, les silences tranquilles. Il y a 1000 silences. Chacun les vit très différemment.
Absolument. Oui. Mais cette dame parlait au passé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de savoir si
elle est en train de partir. C'est dommage. Mais on s'habitue. Il faut s'habituer. Au bruit comme au silence.
Je suis persuadé qu'elle est redescendue, son critère, ses normes, son curseur a dû descendre et qu'aujourd'hui, elle doit s'habituer maintenant à cette ambiance de campagne. Bien sûr que nous sommes, que tout est relatif, mais encore une fois, attention à un bruit qui viendrait effectivement vous enlever votre capacité à réfléchir. Ça pour nous, à la semaine du son, c'est un gros, gros souci. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on est aujourd'hui avec l'UNESCO là-dessus, on est sur une dimension politique, car en fait on peut enlever en fait à chacun effectivement cette capacité à réagir par le bruit précisément.
Ouais. Est-ce que les gens, Cécile Regnault, demandent spécifiquement est-ce que c'est vraiment désormais dans les demandes en fait des bâtiments neufs, des nouveaux bâtiments, surtout sans bruit, jusqu'à quel point en fait c'est d'abord, j'en sais rien, il faut que ce soit bien isolé. Et puis il faut pas qu'il y ait en cas de canicule, et puis il faut pas qu'il y ait trop de bruit, ou est-ce que c'est le bruit d'abord? Comment vous voyez ça, vous?
Alors, en effet, La capacité à pouvoir se trouver l'habitat, en fait, c'est en soi un refuge normalement. Donc tout le monde aspire à pouvoir fermer la porte, fermer la fenêtre. Mais néanmoins, je sens une tendance à quand même vouloir se connecter à son environnement. Donc on sait que si justement on a une isolation trop forte, finalement les gens vont dire je peux pas vivre comme ça. Enfin, ouais. On a l'exemple. Enfin, c'est la même chose.
Le bruit de la ville me manque, en fait. Donc, peu de bruit. Pas trop, mais un peu quand même.
Donc, en fait, dans les nouveaux. D'ailleurs, on préconise beaucoup maintenant les appartements traversants, en fait. Traversant, ça veut dire qu'on a un côté cour, un côté rue. En fait, on a quelque chose de très connecté avec l'activité de la ville, etc. Et un côté plus retiré, où on va pouvoir ouvrir sa fenêtre la nuit, par exemple. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des logiques qui sont assez courantes maintenant, aujourd'hui, alors qui se couple aussi avec l'idée de rafraîchir son appartement, parce que quand on a un appartement traversant, on peut aussi mieux le rafraîchir aussi. Enfin voilà, donc il y a c'est une sensation de bien-être globale qu'on cherche quand on construit des logements aujourd'hui, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Et je dirais qu'effectivement, l'exemple est assez intéressant de cette perception d'un silence qui peut être angoissant. Et je crois qu'on se construit son environnement sonore dans sa propre intimité aussi. En travaillant à la fois sur les sons de proximité sa radio, si on veut avoir la radio, et qu'on peut même, nous on avait observé qu'on pouvait la balader dans l'appartement, enfin certains maintenant baladent leur radio dans l'appartement justement, peuvent la mettre dans des endroits assez incongrus aussi, enfin parfois, donc on se construit cet univers en fait, globalement, et je pense que néanmoins je trouve qu'on est de plus en plus attentif à nos environnements sonores, parce qu'on sait mieux les décrire, parce qu'on a plein de choses aussi qui nous permettent de nous retrouver aussi à travers le sonore.
Merci beaucoup Cécile Regnault. Effectivement, chacun son bruit, chacun son silence, on le disait, Christian Huguenet, mais ce qui est intéressant, c'est ne pas se couper non plus de son environnement sonore, en fait. On ne veut pas vivre dans une bulle, c'est pas ça l'idée, en fait.
Et on a un vrai problème avec le thermique, pour tout vous dire aujourd'hui.
Ah ouais,
le thermique nous oblige à mettre, dans la construction actuelle, on est à des doubles vitrages, voire des triples vitrages aujourd'hui, qui donnent sur des jardins. Des lieux magnifiques, on a des oiseaux, etc. Et on se retrouve avec des 19 décibels, 18 décibels du bruit, bien plus bas que dans ce studio dans lequel on est aujourd'hui. Et les gens, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent effectivement avec des sons qui leur viennent du voisin du dessus et du dessous.
Ouais.
Parce que l'isolement, la législation en termes d'isolation intérieure n'est pas suffisante. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Donc attention de ne pas trop s'isoler non plus.
Ben écoutez, ce sera la conclusion. Ne vous isolez pas trop, mais j'ai bien aimé cette phrase tout à l'heure. Qu'est-ce que vous disiez déjà, qu'un son devient un bruit quand on n'aime plus? Et j'ai trouvé que c'était formidable. Parce que ça nous parle aussi Jean de Radio. Les amis, je ne pars pas sans remercier Thomas Langlin, Pierre de Certaine, Amaury Baucher, Nathalie Poitvin, Philippe Lefébure et Julie Delteil, ainsi que Ronan Mahé et Thomas Allard pour la belle émission et toute cette semaine.